La nouveauté, c'est nouveau pour nous aussi. Ouais.
Ouais. Et donc, Martin Winkler, qui est un médecin lui-même, et qui parle donc de la maltraitance médicale dans la profession de médecin. Soigner, c'est aider l'autre à s'affranchir de la souffrance, de la peur et si possible de la maladie et des soignants. Ce n'est pas une relation de pouvoir. Enfin, ça ne devrait pas être, en fait. C'est ça. Et pourtant, ça l'est. La vocation des médecins est de soigner, guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours. Alors pourquoi certains médecins sont-ils maltraitants? Discrimination, jugement de valeur, violence verbale et physique, et gestes imposés ou archaïques. Ces brutes en blanc enfreignent la déontologie et la loi. Martin Winkler décrit ici les rouages de la maltraitance médicale et les moyens de s'en protéger. Eh bien, voilà. On commence avec la lecture d'un...
Tu peux peut-être parler de l'annonce avant ? L'annonce oui. Du débat du groupe Libertaire d'Ivry, le 19 avril ?
Alors oui, en effet, à l'invitation du groupe Libertaire d'Ivry, il y aura une discussion autour du livre « Te plains pas, c'est pas l'usine », l'exploitation en milieu associatif, dimanche 19 avril 2026, à partir de 16h. Accueil dès 15h à la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Hamelot, Paris 11e, métro République, Oberkampf, Oufi du Calvaire.
Alors, ça doit être la troisième fois qu'on fait ce sujet.
Alors, c'est un livre de qui
je ne me rappelle plus, peut-être collectif, je ne me souviens pas, honnêtement. Okay, c'est un petit livre, hein, il n'est pas très cher, pas très gros. Mais c'est évidemment, il y a des propos de fond pour eux. Avec des tentatives d'explication sur le principe même du milieu associatif, de tout ce que ça peut impliquer, si tu veux, même au point de vue, d'un point de vue pratique. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages. Et ce que j'ai bien aimé les deux précédentes fois, c'est que les gens racontent vraiment leur histoire. C'est un truc ressenti, tu vois. C'est pas de la langue de bois. Oui. Je crois que d'ailleurs, je crois pas me tromper en disant qu'il suffit d'avoir été dans un contexte comme ça. Je crois qu'il est très très rare de pas avoir vécu un énorme décalage entre ce qui est annoncé, prétendu. Et puis, ce qu'il en est en réalité, quoi. Tout ce qui peut être les super expériences, d'ailleurs, en général, alternatives en acte et tout. Et qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? C'est toujours un choc. Et je pense que ça fait vraiment du bien d'en parler. Et on apprend plein de choses, en plus. On peut parler aussi sur le fond, hein. Qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça? Et aussi, comment faire pour essayer d'éviter au maximum que se produisent des abus.
On pense que travailler en milieu associatif, on pense que c'est plus léger, que c'est plus voilà, que c'est plus
ça
cool,
a du sens,
que
ça, voilà. Oui, voilà. Ça, voilà. Et puis, oui.
Mais en fait, il y a des niveaux d'exploitation.
D'une part, ensuite, il y a beaucoup le truc que disaient les gens souvent et que disent les gens à qui même, par exemple, je pense à mon fils qui était dans une association comme ça, qui avait un but social, qui, enfin, il a même écrit carrément un bouquin pour dire à quel point c'était chouette. Et tout. Et le fait est qu'il y avait un côté comme ça. Enfin, c'était s'occuper en particulier d'enfants gitans. Enfin, tu vois, donc, par exemple, mon fils, en plus, comme il est assez sensible, on lui avait confié, alors qu'il devait avoir quelque chose, enfin, il était en service civique, tu sais,
oui.
Et on lui avait confié un enfant en particulier, donc ça n'a rien de dire qu'il n'avait plus de vie, quoi, tu vois. Et en plus, l'employeur, si on peut dire, lui faisait faire des jobs qui n'étaient pas normalement de son ressort et qui le mettaient même en danger, comme par exemple des trucs de déménagement assez dangereux. Et ensuite, par-dessus le marché, effectivement, il faisait beaucoup plus que son temps. Et il y avait même du harcèlement sexuel qui ne devait pas être exprimé. Et ça, c'est un des aspects qui d'ailleurs est moins abordé, je dirais, dans le bouquin, mais que les gens abordent éventuellement. Et ça fait partie... La souffrance, d'ailleurs, ils reconnaissent que tout simplement être travaillé en général, ça veut dire subir des abus de pouvoir. Mais le truc qui est douloureux, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre le discours officiel et puis comme quoi c'est super génial, les, tu sais, c'est libertaire, des choses comme ça, c'est horizontal, ça a un objectif, et puis bon, les conditions de boulot sont cool. Et puis ce qu'il en est en réalité, c'est ce décalage qui souvent est douloureux pour les gens. Donc voilà, chaque fois on a eu des témoignages de gens, c'était vraiment très intéressant. Voilà. Donc t'as dit quand est-ce que c'est, le dimanche 19 avril, à Publico, entrée libre évidemment. C'est accueil à partir de 15h et on voilà, et vers 16h on commence plus officiellement, on va dire. Voilà,
voilà, ça c'est dit.
Oui.
Et on va revenir à, donc à Martin Winkler, Les Brutes en Blanc. Je démarre tout de suite. La maltraitance administrative. Alors, oui. Aujourd'hui, les soignants de tous les hôpitaux, de tous les dispensaires, sont harassés par la charge de travail croissante, les coupures dans le personnel et le matériel, la comptabilité absurde. Bien entendu, les médecins sont eux aussi soumis aux horaires de travail insensés et aux cadences infernales. Mais l'organisation pyramidale des soignants contribue à cet état de choses. En fragmentant doublement la pratique médicale, horizontalement en spécialité, au pluriel et entre guillemets, et verticalement par la hiérarchie et l'esprit de caste, elle fragmente également la délivrance des soins et le cheminement du patient malade.
J'ai déjà plus ou moins exprimé, mais je trouve que je trouve ça un peu lapidaire, dit comme ça, parce que dire que c'est une fragmentation, parce qu'un médecin généraliste va se dire qu'il est un peu dépassé par exemple un cas qui concerne, j'en sais rien, le cœur, le cancer, j'en sais rien, les intestins, enfin tu vois, une partie du corps, appeler ça de la fragmentation, je trouve ça exagéré, si tu veux, parce que tout simplement, en effet, je rappelle quand même qu'un spécialiste fait aussi un cursus généraliste, plus 2 ans, en général c'est 2 ans de spécialité, et le fait de recevoir, d'avoir une expérience sur une partie du corps en particulier, j'appelle pas ça de la fragmentation. Enfin, il suffit simplement de voir comment on ressent les choses. Si moi j'ai eu un problème à un moment d'infection, si je connais des gens qui ont un problème cardiaque, et le médecin généraliste a honnêtement reconnu qu'il n'était pas assez compétent pour sur ce sujet-là en particulier. Et il n'y a pas de honte, je veux dire, normalement. Et je trouve ça même limite dangereux, les médecins qui généralistes qui veulent pas déléguer, enfin qui refusent de reconnaître que ça dépasse leurs compétences et qui voudraient pas envoyer leur patient à un spécialiste sous prétexte que ce serait une fragmentation. Parce que moi, je le vois pas comme une fragmentation. Je le vois comme, en effet, tu peux, sur une partie du corps en particulier, avoir des connaissances que le généraliste n'a pas. Enfin, tu vois, ce qui ne t'empêche pas d'ailleurs de voir cette partie du corps dans un ensemble, je ne sais pas pourquoi ça t'en empêcherait, puisque qui peut le plus peut le moins. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et au contraire, j'ai déjà vu des gens qui, justement, ont eu affaire à des généralistes qui ne voulaient pas envoyer leurs patients un spécialiste, et que mal leur en a pris, quoi, si tu veux. C'est faut reconnaître ses limites quand même, je trouve.
Oui.
Moi, c'est mon point de vue.
La spécialité ne divise pas.
Moi, je pense que ça se discute. En tout cas, je trouve qu'il devrait argumenter plus sur le thème « ça divise », parce que c'est pas forcément le cas, à mon avis.
De plus, la division des soignants permet aux diktats administratifs de mieux régner. Si chaque profession de santé, les médecins en tête, n'était pas occupée à défendre son précaré contre les attaques des administrateurs d'hôpitaux, si les syndicats de médecins se préoccupaient vraiment de lutter pour l'intérêt des patients et non pour ceux de leurs membres les mieux lotis, si l'on travaillait à gratifier et à faciliter l'installation des médecins dans les zones qui en ont besoin pour répondre aux besoins de la population, si l'on favorisait les soins, y compris palliatifs à domicile, si l'on cessait de fermer les maternités locales, on diminuerait d'autant le recours aux urgences et aux services hospitaliers coûteux.
Bah là-dessus, en revanche, je suis d'accord. Mais cela dit, la division des médecins et l'élitisme des médecins, elle peut se trouver chez des généralistes. Je pense qu'on a tous vu des médecins généralistes qui méprisaient, parce que moi, ayant été, étant encore à la CMU, ayant été longtemps au ticket modérateur, je peux te dire qu'il n'y avait pas que les spécialistes qui nous traitaient comme de la merde, hein, en un mot commençant. Voilà.
Mais comment faire quand la profession médicale recrute et valorise essentiellement celles et ceux qui veulent exercer en CHU, en ville ou dans les quartiers riches? Comment faire quand, en France, on continue à former des aristocrates souvent savants, mais incapables de délivrer des soins à la population?
Il dit que c'est l'administration, mais j'ai mauvais esprit, moi, j'ai quand même souvent le sentiment que ça venait des médecins eux-mêmes, que c'est des gens qui sortent un peu de la cuisse à Jupiter. Je peux te dire que les études de médecine, il n'y a pas beaucoup d'enfants de prolo qui dépassent la première année. Et encore, quand ils arrivent à y aller, quand on les a pas, comme les lascars du LEP électronique, sélectionnés pour aller à l'usine à la sortie du collège. Donc, si tu veux, de toute façon, c'est des gens qui font déjà partie de l'élite. Et je pense qu'on n'a pas besoin de les pousser beaucoup pour qu'ils préfèrent avoir une clientèle de riches plutôt que de se retrouver à soigner des péquenots dans le trou du cul du monde. Tu vois, je pense que ça vient d'eux. Il n'y a pas besoin que l'administration les pousse. Et le problème, c'est les classes sociales, c'est quelque chose qui me paraît compliqué à régler à l'échelle de la seule médecine. C'est un des effets de ce que sont les barrières de classe. Puisque de toute façon, par définition, les médecins sont, sauf exception, les médecins viennent de l'élite. Donc c'est logique qu'ils se tournent vers quelque chose, qu'ils se tournent plutôt vers l'élite et qu'ils considèrent au mieux, avec condescendance, quasiment toujours, les patients qui sont à la CMU. T'as plein de médecins qui refusent. C'est pas parce que l'administration les a forcés, hein, mais ils te traitent mal, quoi. C'est des gens qui font partie de l'élite. Et l'élite, il n'y a pas que chez les médecins. Qui regardent de haut, oui, les gens qui n'en font pas partie.
Ouais. Ben moi, ça me fait penser aussi au psychiatre, quand la phrase des aristocrates souvent savants, mais incapables de délivrer des soins à la population.
Oui, les psychiatres, c'est pareil. Je crois pas qu'il y ait beaucoup non plus d'enfants d'ouvriers. On les colle plutôt au lycée technique et après le collège, plutôt que qu'ils aient la possibilité de devenir... parce que psychiatre, c'est une spécialité, je veux dire, de la médecine. C'est 2 ans en plus de la médecine. Ça n'a rien à voir avec... tu peux te bombarder psychologue si tu veux, mais un psychiatre est un médecin qui apprend à délivrer des médicaments psychotropes, par exemple. Voilà.
Et dernière phrase de ce sous-chapitre intitulé « La maltraitance administrative ». Comment faire tant qu'on n'aura pas admis une fois pour toutes que la filière médicale produit surtout des prescripteurs et très peu de soignants? Voilà. Alors, on poursuit avec un autre sous-chapitre intitulé « La destruction de la médecine générale ».
Faut rappeler qu'il est généraliste, lui.
Oui.
Et donc, ben, évidemment, il parle de défendre son précaré. Mais c'est un peu l'impression des fois que j'ai vu que me donnait, je dis pas lui, après tout, il a le bénéfice du doute, mais tout de même, j'en ai vu quand même pas mal, hein, des médecins généralistes qui étaient verts à l'idée de qu'il y ait des médecins spécialistes qui sachent mieux qu'eux. En revanche, j'en ai connu aussi, faut quand même pas les mettre tous dans le même panier, je pense d'ailleurs, c'est à Quincampoix, hein, d'ailleurs, dans un petit village, et une très vieille dame, elle a 98 ans, qui effectivement a eu des problèmes cardiaques, son médecin traitant, qui donc la connaît mieux qu'un spécialiste qui la voit pas souvent, eh bien, il l'a envoyée chez le spécialiste, mais après elle revient chez le généraliste et ils voient ensemble. Elle peut continuer pour le suivi avec lui, et le médecin en question ne voit pas d'inconvénient à essayer de marcher en synergie avec un spécialiste. Et c'est quand même, ça devrait être plus souvent comme ça, je trouve.
Oui, Martin Winkler a effectivement exercé la médecine générale en France de 1983 à 2008. Lorsqu'en 1983, écrit-il, je me suis installé dans un village de 1500 habitants à 15 km au nord du Mans, dans la Sarthe. J'avais pour objectif de délivrer le plus possible de soins primaires aux patients de la commune et du canton qui feraient appel à moi. En pratique, cela signifiait que je recevais les habitants de tous les âges et leur délivrais de mon mieux le maximum de soins. Pendant mes études, je n'avais pas appris à poser des DIU, entre guillemets, des stérilets, entre guillemets.
D'accord.
Ou à prescrire une contraception orale. Je l'ai appris au centre d'interruption de grossesse de l'hôpital. Je n'avais pas non plus appris à examiner des enfants avant de devenir étudiant puis interne, résident, dans ce même hôpital, non universitaire, mais très ouvert à la formation des jeunes médecins. Si j'avais passé la fin de ma formation en CHU, dont la majorité des services ne formaient que les étudiants voués aux spécialités, je n'aurais pas pu apprendre à soigner les femmes, les enfants et les personnes âgées, patients qui constituent la grande majorité d'une clientèle de médecine familiale. Ayant pu prendre de nombreuses gardes dans les services d'urgence pour adultes et enfants, j'avais appris à faire le diagnostic d'une fracture avant de demander une radiographie, à nettoyer et suturer des plaies sur toutes les parties du corps ou presque, à poser et retirer contention, attelle et plâtre sur doigts, chevilles, genoux, poignets. Je savais retirer un corps étranger non perforant d'une cornée ou d'une narine, un bouchon d'une oreille, un hameçon d'un pouce. Je savais subodorer l'existence d'une méningite sur des signes discrets et d'apparence bénigne. Je savais examiner l'abdomen douloureux d'une petite fille et entendre la mère lorsqu'elle mentionnait que son fils aîné avait eu exactement la même douleur, la même douleur lors de son appendicite. Et oui, la fille aussi avait une appendicite et c'est la mère qui avait fait le diagnostic. Je savais aussi que lorsqu'un enfant a mal au ventre, ça peut être dû à une migraine sans mal de tête, que lorsqu'un adulte a mal au ventre, ça peut être dû à une hernie de la paroi et non aux organes situés en dessous, et que bon nombre d'hommes sont plus inquiets de leur santé que leurs épouses ne l'imaginent. J'avais beaucoup appris parce que je m'étais trouvé dans un environnement favorable à l'apprentissage. L'hôpital du Mans était vaste, mais ses services étaient de taille humaine. Les médecins connaissaient leur métier et partageaient leur savoir avec leurs collègues du service voisin. Les infirmières et infirmiers avaient grandi, vivaient et travaillaient au milieu de la population soignée et, inévitablement, la respectaient.
Oui, je suis pas sûre que c'est pas parce que c'est inévitable que parce que tu fréquentes une population, tu la respectes. Je pense qu'on a tous vécu des situations inverses, en particulier quand, en effet, on fait partie d'une classe sociale qui est méprisée en général, quoi, qui est pas seulement défavorisée.
Mais il voulait dire qu'ils se connaissaient tous, patients et soignants.
Oui, mais c'est pas parce qu'il te connaît, le médecin, qu'il te respecte. Je veux dire, c'est pas parce que on te connaît que obligatoirement, enfin, je sais pas qu'est-ce que c'est le terme, inévitablement t'es respecté. Il y a des gens, par exemple, c'est vrai qu'avant le médecin actuel, la dame que je connais, il y avait un autre médecin à la CNOC, quoi, tu vois. Je veux dire, qui avait beau connaître la population, il n'avait qu'un rêve, c'est ce qu'il a fini par faire d'ailleurs, c'était de se tirer dans un endroit où il n'y avait pas de plouc, quoi, tu vois. Et je crois pas que c'est parce que tu connais les gens que inévitablement tu les respectes. Ça se saurait, ça. Voilà.
Lorsqu'une femme vivant dans mon secteur avait besoin de se faire poser un DIU, ce qui est un stérilet, elle n'était pas obligée d'aller consulter un gynécologue à 15 km de là. Deux généralistes du canton, au moins, savaient le faire. Lorsqu'un adolescent faisait une chute à vélo et se rappelait les genoux sur l'asphalte, il savait qu'il pouvait entrer au cabinet du généraliste local pour être examiné et pansé. Il n'aurait pas forcément besoin d'aller passer des radiographies.
Oui, mais tu vois, là, je suis d'accord que, quelque part, j'ai l'impression qu'il a dû être lui-même méprisé par les spécialistes, genre, Tu sais rien, les généralistes, c'est des branleurs, ils savent soigner que les rhumes. Ce qui est faux. Et il a raison de le souligner. Parce que si on l'a méprisé pour ça, c'est nul. Mais en même temps, un gynécologue, il s'est pas seulement posé un stérilet en général. Il a quand même appris un peu plus sur ce qui peut être, tout ce qui peut être, on va dire, l'appareil génital et reproducteur d'une femme. Enfin, j'espère qu'en 2 ans, il a pas fait que jouer la marelle, quoi, tu vois. Donc, et après, quand il voit, et justement, sur le tas, il va apprendre beaucoup plus.
Oui, qu'est-ce continue, qui se continue à parler, il y a du monde qui arrive.
Ah, d'accord, oui. Ok. Et donc, voilà, quoi, tu vois, je pense vraiment que c'est pas. Oui, c'est un peu perturbant, excuse-moi. Non, mais voilà, je pense que, si tu veux, il a raison d'un côté, je le comprends, et il a raison de souligner que les généralistes sont pas, ont des compétences qui relèvent de différentes parties du corps, en effet, et que c'est pas juste des soigneurs de rhume, quoi. Il a raison de dire, parce que c'est pas vrai, tout simplement. Ils savent faire des tas de choses, c'est vrai. Mais prétendre que les spécialistes ne savent rien faire de plus que ce que sait faire un généraliste, je trouve ça un petit peu exagéré, quand même. Tu vois.
D'accord. Voilà. Je poursuis. En 1993, lorsque j'ai cessé de travailler à la campagne pour exercer des vacations en centre de planification à l'hôpital du Mans, ce type de pratique était encore bien réel. 23 ans plus tard, ce tableau idyllique de la médecine générale, il l'était du moins à mes yeux dans mon secteur d'activité et à une époque donnée, il ne l'était pas partout, a fait place à une situation catastrophique. En 30 ans, le fossé entre spécialistes et médecins généralistes s'est aggravé. D'après des chiffres publiés par le Conseil national de l'Ordre des médecins français, d'ici à 2020, les spécialistes seront plus nombreux que les généralistes. Il n'y a rien à d'étonnant. Ah oui, je rappelle que c'est un livre qui a été écrit en 2015. Mmh. Donc 2020, c'est le futur pour ce.
Oui.
Les spécialistes seront plus nombreux que les généralistes. Il n'y a à cela rien d'étonnant. Les étudiants en médecine sont beaucoup plus nombreux à choisir une spécialité dont les conditions d'installation, d'exercice et de rémunération sont bien plus attractives.
C'est vrai que c'est logique.
La situation est d'autant plus dramatique que les généralistes voient leurs possibilités diagnostiques et thérapeutiques s'appauvrir à mesure que la technologie hospitalière et spécialisée s'accroît. Alors qu'ils sont en première ligne et devraient donc non seulement assumer les soins de premier secours, mais aussi permettre de distinguer ce qui nécessite des soins spécialisés, lourds et coûteux, et ce qui ne le justifie pas, les généralistes français sont de plus en plus isolés et démunis, de plus en plus harassés et de plus en plus écrasés par la paperasse, et de plus en plus contraints par la baisse de la démographie et la pénurie de remplaçants à ne plus prendre de vacances, bref, à assurer une charge de travail de plus en plus lourde et de plus en plus dévalorisée.
Je ne sais pas ce qu'il en était en 2015, mais tout de même, on le sait maintenant, on ne peut pas aller voir un spécialiste sans être passé d'abord par un généraliste. Donc, ce qu'il dit, c'est juste pas vrai. Je veux dire, on ne veut pas qu'il fasse le tri. On veut tellement qu'il fasse le tri que c'est obligatoire. C'est-à-dire que des gens, sauf si jamais tu es déjà un peu en piste, quoi, des gens qui, à une époque donnée, voulaient directement aller voir, mettons, un cardiologue ou quoi, ben, pour des raisons d'ailleurs d'économie, hein, parce que bien entendu, comme un spécialiste coûte plus cher qu'un généraliste, c'était pour éviter les hypochondriaques qui abusent d'aller harceler un cardiologue, alors qu'en effet, on a estimé en haut lieu, justement, tout à fait officiellement et administrativement, puisque c'est la loi, quoi. C'est la loi, tu dois pas aller voir un spécialiste sans qu'un généraliste l'ait conseillé. Donc, ce qu'ils souhaitent là, ben, j'ai l'impression que même en 2015, c'était déjà le cas. Et donc, voilà au moins un souhait qui a été réalisé, puisque tu peux pas. Tu peux tout simplement pas aller voir un spécialiste sans que le généraliste ait donné son aval. Tu peux pas. C'est obligé par la loi. Donc, c'est bizarre qu'il mentionne, ou alors il le mentionne après. cette obligation, qu'ils estiment peut-être que du coup ça leur fait du boulot en plus. Ça fait pas tellement de boulot de dire tu viens voir le généraliste en disant ah j'ai des problèmes de cœur, pouvez-vous me donner me faire un mot, comme quoi faut que j'aille voir un cardiologue. Ça mange pas de pain quand même, c'est pas ça qui t'écrase, faut arrêter quoi. Je trouve.
Outre qu'elle devrait rémunérer infiniment mieux la fonction de généraliste, une politique de santé tournée vers les besoins de la population devrait mettre le paquet sur leur formation pour donner aux praticiens de terrain les moyens de délivrer les soins de qualité et d'éviter le recours inutile à l'hôpital. Or, il n'en est rien. Les hôpitaux universitaires sont les fiefs, j'utilise ce terme de la féodalité à dessein, de pratiques spécialisées dont la seule aspiration est de se reproduire. À quelques exceptions près, en province le plus souvent, très peu de CHU ont un département de médecine générale aussi influent sur la formation des étudiants que le sont ceux de cardiologie, de chirurgie ou d'obstétrique.
Oui.
C'est d'autant plus rageant qu'ailleurs, les choses ont évolué. À l'Université de Montréal, la formation des médecins inclut la participation de patients partenaires à chaque étape de la formation des médecins de premier secours et des spécialistes. Tous les étudiants ont un patient pour mentor. À l'université McGill, l'une des plus réputées au monde, le département de médecine familiale vient de fêter ses 40 ans d'existence. Comparé à l'enseignement délivré en Angleterre ou au Canada, la filière médicale française a 50 ans de retard au bas mot.
Oui.
Une politique de santé vouée au service de la population devrait chercher à satisfaire les besoins spécifiques de celle-ci. Pour ce faire, il serait indispensable d'enquêter sur place et de dresser la liste des points forts et des points faibles de la délivrance des soins dans une région donnée. Qui serait le mieux à même de contribuer à ce bilan ? Les professionnels de terrain, généralistes et spécialistes de campagne et de petites villes, infirmières, sages-femmes, kinésithérapeutes, psychologues, etc., s'ils étaient organisés, coordonnés et rémunérés correctement. Or, en France, on ne soigne pas horizontalement, d'égal à égal, en synergie. En France, on divise pour régner, du haut vers le bas, car il n'est pas question de travailler tous ensemble.
Je trouve que par rapport à ça, si on parle du désert médical, par exemple, il y a, en effet, peut-être que si on arrosait, enfin, si les généralistes étaient payés pareil que les spécialistes, mais dans toute la logique, je reparle des lascars du LEP électronique, quand ils disent on n'est pas plus bête que vous, on veut pas aller à l'usine, c'est d'ailleurs pas seulement le maigre salaire des ouvriers qui les préoccupe, mais la nature même du travail, qu'il faut bien l'avouer, s'il faut à propos de ces conditions de travail, les ouvriers ont largement aussi à dire. Mais en ce qui concerne le désert médical, je sais qu'il y a des patelins où ils font vraiment la danse des sept voiles à un médecin, celui qui voudra venir. Enfin, ils essayent quoi, mais c'est compliqué. Et le gouvernement qui a mettre la main à la poche et nous payer autant finalement, c'est un peu ça qu'il dit. Ou j'ai mal compris. On devrait être payé autant qu'un spécialiste. Or, pour reprendre les lascars, dans la logique de ce qu'est un système capitaliste, t'es censé être vachement récompensé pour tes années d'études. Hein ? Et puis, par contre, sauvagement puni si jamais t'es un cancre et que t'as pas travaillé assez, t'as pas fait assez d'études. C'est quand même la logique.
Oui,
hein,
c'est vrai. Oui.
Et tout ça est tout à fait normal. Par contre, il a pas l'air de s'en préoccuper. Oui, ni des conditions de travail, ni de la rémunération de gens qui font un boulot qui est bien aussi bouffant et crevant, mais qui, en revanche, est payé au lance-pierre. Tu vois. Mais je veux dire, quelque part, il est dans cette... Enfin, les médecins généralistes sont dans cette logique-là. T'as fait plus d'études, t'es plus payé, logique. Et par ailleurs, en effet, on peut dire que ça vient de l'administration, mais encore une fois, le mépris de classe, pour l'avoir vraiment subi, pas qu'une fois, des médecins, c'est quelque chose qui fait que ils n'ont pas envie non plus d'aller s'enterrer. Il est logique que quelqu'un qui s'est cassé la tête, n'est-ce pas, puisque il faudrait les remercier et les récompenser à la mesure de toutes leurs années d'études, pendant lesquelles d'ailleurs t'avais les ouvriers bossaient aussi comme des ânes, mais voilà, ça c'est normal. Mais c'est aussi ça, c'est que ils veulent aussi une qualité de vie. Ils ont pas envie de s'enterrer dans un petit patelin. Enfin, je veux dire, il y a que Knock, je sais pas ce qu'il. Enfin, bon, ok, il arrive à faire son beurre. on peut imaginer par la suite qu'il fait ça un petit moment, puis une fois qu'il a un peu ramassé le pactole, il va peut-être aller dans un endroit plus intéressant tout court, tu vois. Je veux dire, quelque part, vivre au milieu de la cambrousse, des gens qui sortent de la cuisse à Jupiter en plus, ils ont plus envie de d'être avec leurs commensaux, n'est-ce pas, enfin de pouvoir habiter le 16e, ou tu vois, enfin,
je veux dire, logique, au bord de la mer.
Voilà, en tout cas n'importe où, mais pas là, quoi, tu vois. Donc, quelque part, il y a quand même une responsabilité des médecins eux-mêmes, mais le côté barrière de classe est très peu évoqué, si tu veux, je trouve, dans tout ce qu'il dit. Et que c'est ça qui fait aussi qu'ils n'ont pas envie d'être avec des ploucs, qu'ils n'ont pas envie d'être dans un patelin où eux, ils s'épanouissent moins qu'à Paris ou au bord de la mer, en effet, et que effectivement leur attitude, c'est pas parce qu'ils connaissent, tu connais des patients, que t'es obligatoirement proche d'eux. Enfin, je veux dire, il y a pas que, enfin, Knock est un bon exemple puisque t'as lu le bouquin entier, hein, Denis. Mais je pense que c'était pas complètement inventé, l'attitude de ce médecin envers ses patients, le mépris qu'il ressent pour eux.
La fiction s'inspire souvent du réel.
Ça. Oui, enfin, je pense que c'est pour ça qu'il a eu du succès, ce livre. C'est parce que ça rappelait carrément quelque chose. L'idée d'un médecin qui, en effet, fréquente ses patients, les comprend très bien, d'ailleurs, parce que pour les manipuler et leur tirer tout leur pognon, il est vachement doué. Il faut quand même être un... Comme tous les escrocs, il sait sentir un petit peu ses gogos. Non. Mais ça signifie pas du tout qu'il a du respect pour eux, ou le moindre sentiment, d'ailleurs. Voilà.
Depuis quelques années, le concours français de l'internat a été transformé, élitisme oblige, en examen classant national, ECN, obligatoire pour tous. Tous les médecins, enfin, sont internes avant de se mettre à exercer. Chaque année, à l'issue des résultats, les candidats postulent pour telle ou telle fonction dans le ou les hôpitaux de leur choix. Et chaque année, un nombre important de postes d'internes en médecine générale ne sont pas pourvus. Les étudiants qui pourraient les obtenir préfèrent repasser le concours pour accéder à une spécialité. Quand on a été formé dans un CHU au milieu des appareillages et des technologies les plus complexes et les plus sophistiquées, dans la sainte erreur de passer à côté d'une saloperie si tu ne fais pas ce qu'il faut, la perspective d'aller exercer loin des plateaux techniques est aussi rassurante que celle de sauter d'un avion sans parachute. Face à la rémunération médiocre, aux gardes obligatoires, parfois sur réquisition, et à l'appauvrissement des zones rurales, pas d'école à laquelle conduire ses enfants, pas de travail pour le conjoint, la plupart des jeunes médecins qui ne feront pas carrière à l'hôpital préfèrent se spécialiser pour s'établir en ville. Ils gagneront leur vie en travaillant aux heures de leur choix, sans devoir assurer les urgences, et près des centres les mieux équipés. Le choix est simple.
Oui, ça c'est clair.
Résultat, aujourd'hui en France, la démographie des généralistes est en chute libre. Harassés, frustrés et noyés par l'isolement, l'absence de soutien et le mépris des pouvoirs publics et des spécialistes, beaucoup de jeunes médecins refusent de s'installer et des omnipraticiens dans la force de l'âge choisissent, souvent la mort dans l'âme, de dévisser leur plaque sans avoir trouvé de successeur pour s'orienter vers une autre activité, voire un autre pays. Voir à ce sujet le dernier billet des carnets d'un médecin de montagne, sur Internet. Car cette situation n'est pas évitable, même dans les pays les plus industrialisés.
N'est pas inévitable, tu veux dire, non ?
N'est pas inévitable.
Oui, d'accord. Enfin,
même dans les pays les plus industrialisés. En Grande-Bretagne, dont le système de santé, il est vrai, pèche par d'autres aspects, les médecins de famille sont véritablement les points d'ancrage de la délivrance des soins. Ils sont aussi les mieux formés, les plus critiques envers l'industrie, les plus investis dans les recherches portant sur le soin au quotidien et les plus ouverts au partage des connaissances avec les citoyens.
Ça doit dépendre, hein. Enfin, je veux dire, il est souvent assez... Il fait des généralités comme ça facilement, je trouve,
ouais,
dans le bouquin.
Oui, il fait souvent des généralités.
Bah,
oui,
parce que je suppose qu'il y a des médecins qui... Enfin, moi, j'en ai vu même dans les... Je te dis, dans des endroits, dans des villages ou quoi, et qui sont... Je dis pas que c'est tous des knocks, hein, faut pas exagérer. Mais enfin, il y en a qui en ont pas grand-chose à secouer de leurs patients, parce qu'encore une fois, ils ont beau être... Être au contact et tout ça, c'est quand même pas le même monde, on va dire. Quelqu'un qui a pu être médecin, même de campagne, et c'est quand même qu'il a pu faire des études, et que c'est bien rare qu'il soit lui-même fils de paysan. Il y a des statistiques là-dessus, tu vois.
Oui, donc voilà. Il y a d'autres facteurs qui interviennent, j'ai l'impression. C'est par exemple, les médecins, c'est aussi une corporation. Mmh. Et que, au sein même de la corporation, on peut avoir des principes, une charte,
Oui, c'est ce que je voulais dire, excuse-moi, t'as raison. T'as raison, il y a des gens qui sont...
Certaines corporations peuvent être plus éthiques que d'autres.
Bah, moi, je crois... Oui, c'est vrai, j'exagère en disant que tous les gens, d'ailleurs, qui sont issus de la bourgeoisie auraient du mépris de classe. Faut pas que j'exagère non plus, même si c'est quand même très souvent le cas. Faut pas exagérer. Et même dans ceux qui estiment pas énormément leurs patients, il peut y avoir une conscience professionnelle. En effet, chez un généraliste, ou au contraire, pas du tout. C'est des gens, hein, quand même, avant tout. Donc, même les spécialistes, j'en ai vu aussi, qui étaient quand même très méprisants. Enfin, moi, tu me diras, j'ai eu affaire qu'à des... comme j'ai toujours eu un ticket modérateur ou la CMU et tout, je me suis toujours retrouvée face à cette situation, et j'ai été confrontée à des spécialistes comme à des généralistes qui étaient des fois tout à fait consciencieux. Et c'est tout ce que je leur demande, parce que dans un autre chapitre, ils disaient, faut apprendre à tenir la main. Non, mais attends, j'en attends pas tant. Je veux pas qu'ils me fassent un câlin. Tu vas voir un médecin, c'est pas parce que t'as besoin d'amour. Je veux dire, tu y vas parce que ce que tu voudrais bien, c'est que si t'as un problème de santé, qui te le résolve et qu'il le fasse de son mieux, avec tout son petit cœur, parce qu'il fait son maximum. C'est tout ce que tu lui demandes. Pour le câlin, c'est bien malheureux si tout ce que tu as trouvé, c'est de demander au. Enfin, il disait ça, faut apprendre à leur tenir la main. Et oh, tu la lâches, ma main.
C'est ça.
Je veux dire, c'est pas ça, quoi. Tu demandes à ce qu'il essaye de te soigner le mieux qu'il peut et qui t'expédie. Enfin, moi, ça m'est arrivé d'être vraiment expédié. Genre, j'en ai rien à foutre de ta gueule, quoi. Ouais. C'est ça que je voudrais, c'est qu'il se préoccupe de ma santé. Voilà. Il y en a, généralistes comme spécialistes, qui le font, y compris avec quelqu'un qui est pauvre, et il y en a qui le font pas, parce que c'est quand même des personnes. Même les bourgeois sont des personnes, si.
Ouais, et puis je vais finir ma blague. Et si parfois les câlins peuvent être thérapeutiques, c'est jamais les médecins qui les administrent.
Oui.
Donc les médecins de famille britanniques sont ouverts au partage des connaissances avec les citoyens. Et quand le gouvernement les menace de mesures iniques, ils font front commun et le font plier, comme on l'a vu courant 2016.
Oh, ça, je dois dire que je ne sais pas si tu as suivi des fois les grèves de médecins, mais c'est même atterrant. Parce que beaucoup de gens sont très... choqué en réalité de la différence qu'il y a entre je veux dire quand il y a des luttes de médecins et qu'ils arrivent à avoir gain de cause, alors que je veux bien qu'ils se plaignent de leurs conditions de travail et de leur salaire, mais quand il y a quand il y a des lois vraiment particulièrement iniques pour le commun des mortels, on va dire, tu peux descendre un million dans la rue, de hurler que tu vas crever et rien à foutre. Je me rappelle une fois où il y avait je sais plus quel ministre qui avait dit ouais, il y a un million de personnes dans la rue, ben il y en a encore plus qui sont restés chez eux, mais t'as l'impression que les médecins ils pètent un petit coup et puis ça y est, on leur fait une rallonge. Et t'as beau dire, en effet, je dois dire que ça doit être beaucoup encouragé à lutter quand tu te dis que t'as quand même des bonnes chances d'y arriver, parce que on a tous suivi des grèves de médecins dont ils sortaient assez victorieux et tous aussi surpris finalement de ce traitement de faveur. Faut appeler les choses comme elles sont. Voilà.
Mais parfois même pour le meilleur ou pour le pire, parce que des fois ça peut être des médecins qui manifestent justement, qui refusent la répartition sur le territoire pour éviter.
Ah oui, c'est vrai, c'est arrivé.
Et plutôt de conserver leur privilège de pouvoir choisir les endroits où qu'ils veulent pour exercer.
Parce que c'est déjà, enfin excuse-moi parce que je n'étais pas au courant, est-ce que le gouvernement a déjà essayé de mettre en place une loi pour obliger des médecins à aller à Pétaouchnok?
Il me semble, mais bon, il faut que je sois plus précis, que je regarde plus précisément, mais il me semble qu'il y avait une orientation, ils ont un projet dans ce sens.
En même temps, en effet, je pense que ça va être, il va falloir être coercitif, hein, t'as intérêt à leur mettre vraiment un flingue quoi.
C'est ça, ouais. Alors, en fait, oui, on disait que ce livre a été écrit en 2015, mais c'est en 2016, en fait, qu'il a été écrit, puisque, voilà, je corrige. Au Québec, comme d'ailleurs dans l'ensemble du Canada, la médecine de famille est une spécialité de même importance que les autres. Les omnipraticiens y sont beaucoup mieux rémunérés qu'en France, et même si devenir médecin confère des privilèges indéniables, cela comporte aussi des obligations civiques. Les professionnels de santé québécois ont pour vocation première de servir la communauté, non de s'isoler dans une caste et de dominer l'ensemble du système. À ce titre, les médecins de famille sont tenus d'exercer en service d'urgence et en maternité, mais aussi de se rendre à tour de rôle quelques semaines par an dans des dispensaires ou centres médicaux très éloignés de leur lieu d'exercice habituel.
Ah ben, d'ailleurs, ça me rappelle un truc que j'ai vécu avec un médecin généraliste qui m'a fait payer une rallonge, alors que bon, il était conventionné, que c'était mentionné nulle part. Et en fait, il m'a expliqué qu'il était considéré comme spécialiste, comme généraliste spécialiste, car il avait je sais plus combien d'années de boutique. Et donc, et ce qui d'ailleurs, quand on y réfléchit, dans la logique du système qui fait que t'es plus compétent dans certains domaines, parce que bon, enfin, même on peut dire que ça dépend, mais enfin il y a des employés qui sont pas mieux payés parce qu'ils ont 50 ans de boutique, mais il y en a qui grimpent et tout, des ouvriers qui se spécialisent par exemple. Mais le fait est que je trouve que d'un point de vue, quand tu acceptes l'idée que tu es rémunéré en fonction de, on va dire, de tes compétences, ça dépend. En médecine, tu vas être mieux rémunéré qu'un ouvrier spécialisé, parce que si on doit commencer à parler des inégalités du point de vue du travail, on va aller loin. Hein. Mais enfin, le fait est que pour le patient, avoir affaire à quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, c'est quand même mieux. Je veux dire, d'un autre côté, je sais que même par exemple pour un dentiste, on va dire, c'est aussi, enfin, c'est pas un médecin à proprement parler, je savais pas lequel choisir dans un cabinet, et j'en ai choisi un parce qu'il s'appelait André. Et comme André, c'est le prénom de quelqu'un qui vient pas de démarrer, je me suis dit, il va pas s'exercer sur mes crochets. Donc si tu veux, je veux dire, l'idée que t'essuies pas les plâtres, tu vois, j'ai une copine aussi qui s'est fait opérer des yeux, tu sais, pour la myopie, et elle voit arriver vraiment mais un petit gros luchon, quoi. Elle lui dit, excusez-moi, ça fait combien de temps que vous exercez? Il lui dit, ah bah ça fait 6 mois. Elle dit, je suis désolée, j'aimerais mieux affaire à quelqu'un qui exerce depuis 20 ans. Enfin, tu vois, non mais c'est vrai, c'est logique aussi, oui, d'un autre côté. Ouais. Mais pour dire, il y a des généralistes spécialistes. Il y a un tarif spécial pour le généraliste qui a beaucoup d'expérience. Je ne le savais pas, mais c'est un statut à part. Hein, ouais.
Le Québec est très vaste, 2,5 fois la superficie de la France, mais tout est fait pour offrir des soins de qualité à tous, en particulier aux populations autochtones vivant aux confins de la province. Et les médecins y contribuent en sachant qu'ils sont des éléments indispensables du système de santé considéré comme un service public. En France, la profession médicale se présente comme le parangon des vocations soignantes, mais parce qu'elle reste perchée sur un maillage d'élitisme, de corporatisme sectaire et de lutte de pouvoir, elle ne remplit pas du tout cette mission supposée. Comment ceux qui se consacrent dès le début de leur formation à établir leur statut et leurs privilèges les uns contre les autres pourraient-ils se sentir honorés de délivrer des soins et d'exercer avec humilité ? Comment pourrait-il avoir envie de soigner tout le monde alors qu'il vise à montrer qu'ils sont différents de et supérieurs à la majorité de leurs concitoyens, y compris leurs collègues ? Ils ne peuvent pas, ce ne sont pas leurs valeurs. Quant à celles et ceux qui échouent à faire une carrière hospitalo-universitaire, comment leur reprocher de préférer le confort d'une pratique spécialisée en ville aux insondables difficultés matérielles, morales et administratives infligées à la médecine générale rurale ou de quartier ? Malgré ce qu'on leur a fait croire, ils et elles ne sont, après tout, que des êtres humains comme les autres. Pourquoi sacrifieraient-ils leur vie et celle de leur famille pour une vocation altruiste qui, non seulement n'est pas valorisée, mais qui, en plus, a toujours été méprisée et rejetée par l'élite de ceux qui les ont éduqués ?
Et si on doit commencer à parler du thème de l'élite, je reviens encore au Lascar du LEP électronique. Donc c'est un documentaire qu'on a projeté quelque chose comme 6 ou 7 fois, parce que c'est vraiment nos idoles, des ados qui donc lors du CPE se sont opposés aux étudiants, parce que justement sur le thème des barrières de classe dans les luttes, puisque eux, leur problème, c'est pas d'être embarrés à l'entrée de l'université, puisqu'on les a déjà dirigés vers l'usine à la sortie du collège. Mais justement, si on doit reprendre ces propos et les généraliser un petit peu plus, d'une manière générale, n'importe qui est un être humain. Et qu'est-ce qu'ils disent, les Lascars, entre autres, hein, ils ont un discours très, très révolutionnaire, hein, on va dire, mais et qui est anticapitaliste, mais révolutionnaire au sens où ils veulent abolir le salariat, l'argent, et puis tout ce qui peut être justement ces différences de traitement. Et ils disent tout simplement, on n'est pas plus bête que vous, on n'ira pas à l'usine. Donc en effet, est-ce que c'est humain de ne pas vouloir aller à l'usine? Et à la limite, il y a peut-être des enfants d'ouvriers qui préféreraient être médecins, y compris à la campagne, mais ils n'ont absolument pas le choix, parce que là aussi, les statistiques sont très cruelles, du très peu de premièrement, effectivement, là, ils ont déjà été dirigés de toute façon vers l'usine, dès la sortie de la troisième, mais même pour ceux qui, en ramant, on réussit à aller jusqu'à la fac, enfin à faire un cursus, enfin baccalauréat, etc. Et ben une écrasante majorité ne passe pas la première année. Déjà quand tu dois effectivement, excuse-moi, mais quand tu dois travailler en même temps que tu fais tes études, des études qui sont déjà vachement lourdes, t'as déjà beaucoup moins de chances, sans compter que en effet quand tu es, enfin le cas des Lascars, c'est qu'ils sont enfants d'ouvriers. Outre l'aspect financier, t'as aussi l'aspect culturel. On va dire que tu dois être vraiment totalement autodidacte, quoi. T'es pas aidé. Et puis t'es pas aidé non plus du point de vue confiance en soi. Enfin, tu te dis, on dirait que lui, il a pas idée qu'il puisse y avoir en dessous d'être médecin dans un petit patelin. Mais les êtres humains n'ont pas envie même de travailler tout court, hein, d'ailleurs. Mais enfin, il y a des boulots pires que d'autres. Et en effet, malgré tout, travailler en usine, c'est un truc qui t'use. Enfin, voilà, comme en bureau, d'ailleurs. Enfin, hein, c'est un truc qui t'use énormément aussi. Et on peut pas dire que tu l'as choisi, quoi. Mmh. Bon, voilà.
Santé publique, médecine libérale. Dernier point qui n'est pas le moins polémique. Le système de santé français souffre d'un défaut fondamental. Alors qu'il est censé délivrer des soins au public, ses principaux acteurs, les médecins, y interviennent pour bon nombre en tant que professionnels libéraux, c'est-à-dire en défendant des intérêts individuels. Le sacro-saint paiement à l'acte, la possibilité de coter chaque geste technique dont disposent beaucoup de spécialistes, l'absence d'obligation de participer à la permanence des soins dont jouissent des flopés de praticiens, sont autant d'obstacles à un système de santé cohérent, solidaire, tourné vers le public. Le soin est une activité collective et coopérative entre soignants et patients. Mais le système français s'est édifié sur le pire des dispositifs. La sécurité sociale, pour délivrer les soins, passe contrat avec des personnes privées. Autant dire qu'elle peut les exploiter à loisir en les sous-payant. Le généraliste français gagne en moyenne moitié moins pour chaque acte que les autres généralistes d'Europe.
Ça fait combien ?
Ou à l'inverse, se fait escroquer par certaines des véritables PME que sont cabinets de spécialistes, cliniques, gros cabinets de cardiologie et autres laboratoires d'analyse.
J'ai, d'ailleurs, ça c'est bizarre parce que j'ai entendu des doléances de ce genre par rapport à des métiers qui étaient, par exemple, je me rappelle, je crois que c'était les journalistes de France Inter ou un truc comme ça, qui étaient en lutte parce qu'ils trouvaient qu'ils n'étaient pas assez rémunérés. Et quand on leur demandait combien ils touchaient, ils ne voulaient pas répondre. Ils disaient « on touche moins qu'un journaliste de télé ». Ce qui est vague, quand même. Et là, il te dit qu'il touche moins qu'un spécialiste, ce qui, dans la logique capitaliste, d'ailleurs, est logique. Le médecin lui-même ne trouve pas anormal de toucher plus qu'un employé de bureau ou un ouvrier d'usine. Mais c'est combien exactement? Et si tu veux, quand ils ne le disent pas, c'est parce que je pense qu'il y a peut-être un petit coin de lui qui se dit, il pourrait dire en moyenne c'est tant, tu vois, en moyenne à peu près, tu vois. Mais non, parce que quelque part, si on savait combien il touche, on serait peut-être un peu choqué, quoi, si tu veux te dire. Et ton problème, c'est que tu touches moins que celui qui a fait plus d'études que toi. Ouais. Alors que tu trouves normal qu'ayant déjà fait, je sais plus combien c'est d'années d'études, il est normal que grâce à ces études, tu touches plus que celui qui, par exemple, est infirmier. Tu vois, oui. Et qui pourtant en bave aussi quand même. Ouais. Donc je trouve que si tu veux, c'est ouais. un peu. Pour moi, c'est un peu discutable cette façon
oui,
de
oui,
voir.
Oui, parce que bah, nous, si, tant qu'il puisqu'il y a du salariat ou de la rémunération, on plaide pour l'égalité des salaires.
Enfin, en ce qui, quand tu es anarchiste, ton idée, c'est qu'il n'y ait plus d'argent.
Oui,
mais de toute manière, mais disons que si jamais tu dois être même réformiste à fond, en te disant, en attendant la révolution, en attendant la révolution, si tu te plains de ton sort, et que tu te plains parce qu'il y a plus mieux lotis que toi, eh bien, essaye de penser aussi à ceux qui sont moins bien lotis. D'ailleurs, même dans le domaine médical, ce qui fait pas, d'ailleurs. Genre les infirmiers, etc. Ah bah oui, mais moi j'ai fait des études. Le spécialiste a fait plus d'études que toi, Coco. Tu vois ce que ouais. je veux dire? Si jamais tu admets cette idée-là, déjà. Et là, je parle même pas d'un point de vue anarchiste, hein. Mais en effet, ce côté, il y a mieux lotis que moi. Pour Radio Libertaire, à une époque, avec une copine, on faisait un micro-trottoir. Après, on faisait un montage et on le passait comme ça. Et on était allé dans des quartiers pauvres et tout pour demander aux pauvres ce qu'ils pensaient des riches et vice-versa aux riches ce qu'ils pensaient des pauvres. Les pauvres te disaient des trucs très très concrets, hein, du genre les enfants vont jamais en vacances, on est dans un taudis, on m'a coupé l'électricité, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Mais dans les quartiers riches, on n'a trouvé aucun riche. Il n'y en avait pas. Il y a beaucoup plus riches que moi. C'était ouais. le leitmotiv. Voilà.
Alors là, c'était intéressant aussi de parler de la sécurité sociale qui peut rembourser trop peu des médecins, mais qui peut aussi se faire piller par des cabinets de spécialistes cliniques ou gros cabinets qui sont de véritables PME. Il y a eu
des scandales là-dessus, non ?
Oui, disons, ça avait fait l'objet, je crois, d'un cache-investigation sur la télé, d'une émission. Et voilà. Et donc, je ne dis pas que ces structures, donc laboratoires d'analyse, cabinets, etc., se comportent de manière déloyale, mais que le système le permet, et que beaucoup le font, et dans le monde médical, tout le monde le sait. Alors, peut-être serait-il temps de repenser tout ça ? Il n'est pas question de changer tout le système d'un coup, mais de donner à ceux qui ont envie de soigner, sans se faire exploiter, submerger de paperasse et être harassé de contraintes absurdes, la possibilité de le faire. Si les jeunes médecins refusent aujourd'hui la perspective d'être contraints à l'installation dans des zones où ils ne veulent pas aller, c'est bien sûr parce qu'on ne veut pas s'installer dans des zones désertifiées. Mais c'est surtout parce qu'il est tout à fait déloyal de leur imposer ça près d'une décennie après qu'ils ont mis le pied dans la fac. Contrairement à l'installation, ceux qui viennent de finir leurs études contraindre à l'installation ceux qui viennent de finir leurs études est malhonnête et immoral. Nul ne peut accepter un tel changement des règles du jeu. La seule manière équitable de modifier les conditions d'installation serait de passer aujourd'hui avec les étudiants qui s'inscrivent, passer un engagement d'installation dans des zones qui auront besoin d'eux à la fin de leurs études. En Amérique, les zones qui n'ont pas de médecin paient l'intégralité des études de ceux et celles qui s'engagent, une fois leur diplôme en poche, à venir s'y installer. On a les moyens de faire la même chose en France. Si les étudiants qui s'engagent à pratiquer la médecine générale dans les zones qui en auront besoin, ils sont incités par des aides financières conséquentes pendant leurs études, le recrutement changera. Des étudiants issus de tous les milieux pourront devenir médecins. Et c'est souhaitable car la profession a grand besoin de diversifier l'origine de ses membres.
J'ai peur que... Enfin, c'est une bonne idée et je trouve que ça partit... Enfin, pourquoi pas, quoi, essayer en effet. Et si c'est vrai que ça marche aux États-Unis, pourquoi pas. Mais cela dit, j'ai peur que, en ce qui concerne le fait d'être prêt à pouvoir faire des études, eh ben, j'ai peur que ce soit moins simple que ça. Je reviens au Lascar. À la sortie de la troisième, il faut fournir les patrons d'usine. Enfin, les patrons en général. Oui. Et donc, et le fait de ne pas avoir assez confiance en soi pour faire des études, ça relève pas que d'une question financière, mais ça serait déjà ça, si tu veux, de faire ça, de payer en effet les études. Peut-être que ça résoudrait un petit peu, mais les barrières de classe, c'est quelque chose qui est plus profond qu'une simple question financière. Voilà.
Alors, il faut aussi, en prévision de ces installations, mettre en place des conditions de travail favorables, des cabinets de groupe gérés par la collectivité, un salaire équivalent à celui des praticiens hospitaliers, l'organisation de la permanence des soins en équipe, la perspective de former des généralistes, les généralistes de la génération suivante, etc. Ce type de pratique attirera certainement beaucoup de jeunes soignants, libérés de l'angoisse de se retrouver seuls et de l'obligation de faire du chiffre pour rembourser leurs dettes. J'entends ici le commentaire « Vous voulez une médecine d'État, des médecins fonctionnaires ?» Et ce commentaire a toute la posture de classe, encore une fois.
Ah bon ?
Qu'est-ce qu'un praticien hospitalier, sinon un haut fonctionnaire payé par l'État ?
Pourquoi ce serait une honte d'être fonctionnaire, c'est la première nouvelle ? Je ne sais pas, je suis surprise, vraiment.
Ben justement, c'est pas...
Il y a des gens qui disent que ce serait nul d'être fonctionnaire ?
Ouais, je ne sais pas, tu sais, c'est le truc du fonctionnaire... planqué, feignant, je sais pas quoi. Il y a des poncifs sur les fonctionnaires.
Peut-être qu'il faut combattre les poncifs sur les fonctionnaires plutôt que dire non, on n'est pas des fonctionnaires. Si. Enfin, non, mais je dis un truc super réformiste, je suis simplement surprise disent j'entends un argument comme ça alors que je m'attendais pas à ce qu'il y ait des gens qui donnent cet argument.
Oui, c'est l'argument de ceux qui veulent tout privatiser aussi.
Ah oui, bien sûr. Oui, t'as raison. Je comprends.
Donc c'est une posture de classe aussi. Et qu'est-ce qu'un médecin, qu'est-ce qu'un praticien hospitalier, sinon un haut fonctionnaire payé par l'État ?
Justement, on en revient au problème de la hiérarchie. Parce que, quelque part, ça part d'un bon sentiment de dire qu'il faudrait que les gens, que des pauvres grimpent dans l'échelle sociale. Mais j'en reviens au Lascar, ils veulent pas, justement, ils veulent absolument pas ça. Ils veulent pas devenir à leur tour, faire partie de l'élite à leur tour. Ils contestent l'idée même d'élite. Or là, au fond, ce qu'ils proposent, c'est l'ascenseur social et l'égalité des chances, n'est-ce pas ? Or nous, on n'est pas du tout pour l'égalité des chances. C'est pas du tout ça. Tu te dis, on en est toujours sur l'idée du mérite. Et il y en a qui arrivent, effectivement. D'ailleurs, il y en a qui y arrivent. D'ailleurs, je vais vous cracher le morceau. Mohamed de la Santé dans tous ses états est un gosse de prolo qui fait partie des rares qui ont réussi à devenir médecin malgré leur origine sociale. Mais justement, il conteste l'idée d'élite. Tu vois, enfin, parce que il va pas dire moi j'ai réussi. Si tu n'y arrives pas de ton côté, c'est que tu es feignant ou je sais pas quoi. Mais surtout, les Lascars, ce qu'ils contestaient, c'était l'idée d'élite. Et ils voulaient pas. Ils ont eu à un moment donné l'idée de, après tout, si on est des brouillards, comme ils sont très intelligents, je pourrais moi aussi arriver à faire partie de l'élite. Mais c'est l'idée même d'élite que tu contestes. Donc l'ascenseur social, c'est pas du tout ton truc normalement.
Voilà. Nous saluons Mohamed au passage.
Oui.
Pourquoi serait-il honteux d'être médecin payé par une collectivité locale ou par la région ? Le système de santé appartient aux citoyens, il n'appartient pas aux médecins. Il est juste que les médecins sachent pour qui ils travaillent et l'assument. Il serait également temps de repenser la matière la manière dont sont facturés les actes des spécialistes les plus lourdement équipés, car celle-ci est en elle-même une invitation à choisir une spécialité plutôt qu'une incitation à devenir un soignant de première ligne. S'il est tout à fait souhaitable que des professionnels de santé soient bien rémunérés quand ils soignent, il est en revanche absolument immoral que certains utilisent les techniques qu'on leur a enseignées pour s'enrichir.
Je ne comprends pas.
Alors, on recommence. Il serait également temps de repenser la manière dont sont facturés les actes des spécialistes les plus lourdement équipés, car celle-ci est en elle-même une invitation à choisir une spécialité plutôt qu'une incitation à devenir un soignant de première ligne.
Oui, c'est plutôt. C'est plutôt que j'ai l'impression qu'ils trouvent ça normal d'avoir des sous et qu'en même temps ils trouvent pas normal de vouloir des sous. Enfin, dans la phrase suivante, tu dis c'est normal qu'ils soient bien payés. Mais ça serait normal, même encore une fois d'un point de vue purement informiste, hein. Lourdement syndicaliste.
Il dénonce juste l'inégalité qu'il y a encore entre les généralistes et les spécialistes.
Oui, mais par contre, les inégalités qu'il y a entre les gens en général sur la question du salaire, par exemple même avec les infirmiers, ça n'a pas l'air de beaucoup le préoccuper.
En effet. Alors, s'il est tout à fait souhaitable que des professionnels de santé soient bien rémunérés quand ils soignent, il est en revanche absolument immoral que certains utilisent les techniques qu'on leur a enseignées pour s'enrichir. Où finit la juste rémunération du professionnel de santé? Où commence le profit? Tant qu'on ne se sera pas penché sur cette double question, l'intérêt personnel des médecins l'emportera inévitablement sur ceux de la collectivité. Mmh. En revanche, si d'autres modes de rémunération sont mis en place, enfin, on peut rêver. Mais je ne suis pas un politicien, je suis un homme de terrain, sur le terrain, en attendant que ça change, il y a beaucoup à faire contre la maltraitance au quotidien. Voilà, ça c'est...
Je ne sais pas si j'ai une minute pour juste revenir juste un truc par rapport à une bêtise que j'ai dit la semaine dernière. J'ai dit que la loi empêchait par rapport au fait que quand tu rentres volontairement dans un hôpital psychiatrique, enfin en psychiatrie, la loi t'empêche de sortir et donne le droit au médecin de t'empêcher de sortir. Eh ben, je me suis trompée, c'est pas vrai. Ils prennent de gauche, quoi. On va dire, c'est que je suis tellement naïve que je me suis pas dit, pourtant je devrais me le dire, qu'ils faisaient ça contre la loi. Mais quelqu'un qui peut se faire aider juridiquement, si on lui fait un coup pareil, jamais on punira le psychiatre, évidemment. Mais enfin, normalement, la loi ne leur permet pas. Ouais, oui, je me suis trompée.
D'ailleurs, je pourrais donner une précision. D'ailleurs, sur le site Solidarité Usagers Psy, sur les hospitalisations libres. Les soins libres, dénommés anciennement hospitalisation libre, sont le cas d'hospitalisation le plus fréquent. Cela concerne environ 90% des patients hospitalisés. Dans ce type d'hospitalisation, le patient a conscience de la gravité de son état, patati patata. Il dispose exactement des mêmes droits que tous les autres patients hospitalisés dans les autres spécialités médicales. Ceci implique entre autres une liberté de mouvement et la possibilité de quitter l'hôpital quand il le souhaite, si cela ne le met pas en péril.
Sauf que le médecin avait considéré que ça me mettait en péril.
Il y a quand même des démarches, une certaine contrainte, c'est-à-dire que, donc, en fait, l'hospitalisation prend fin sur votre décision et ou sur celle du médecin, mais vous êtes libre de sortir même contre l'avis de ce dernier. Dans ce cas, vous devez signer une décharge de responsabilité. Si vous souhaitez quitter l'établissement sans son accord, vous devrez accomplir d'autres formalités. Le médecin vous informe des risques que vous prenez en quittant l'établissement, contre son avis, il vous donne tous les documents, ordonnances et indications nécessaires à la poursuite de vos soins. Il établit aussi un courrier pour votre médecin traitant. Voilà.
Ok.
Eh bien, ainsi se termine l'entonnoir pour aujourd'hui.
Il est fini le bouquin ?
Non, on a encore un chapitre... Que faire contre la maltraitance médicale ou quelque chose comme ça.
Ok.
Salut.
Des poubelles qui m'entourent, j'ai des frissons. Ce matin, comme d'habitude, j'ai acheté une peupon. Il est bien loin, le temps où je fumais que du chichon. Des fois, je me dis, purée, je veux faire comme mon frère.
travailler, aller à la mosquée, faire mes prières. Un jour je vous jure purée, j'ai même failli le faire. Mais ces sales jaloux de toxico m'ont proposé une conso gratis d'héro, afin que je redevienne à moins que rien un zéro. C'est dur à croire mais j'ai pas toujours été comme ça. C'est quoi? Avant j'avais du genre. Les gens ils me respectaient.
Alors, on est toujours sur Radio Libertaire 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et nous allons écouter maintenant, eh bien, Un rayon de soleil avec Fabrice.
Soleil. Le Libertaire.